Popopienne, Popopien et tous les autres aussi, bonjour. Les Popopop ont beau se suivre, ils ne se ressemblent pas, mais l'observateur le plus bigleux remarquera quand même que nous nous efforçons au mieux de décliner l'effet marabout, si populaire à mon époque dans les cours de récré. Mais si, vous savez, marabout, bout de ficelle, selle de cheval, cheval de course, course à pied, pied à terre, terre de feu, feu follet, lait de vache...
Ouais, c'est bon Antoine, je crois qu'on l'a.
D'accord. Donc vendredi, nous recevions Rupert Everett pour parler de son film sur Oscar Wilde.
Oui, et alors ?
Eh bien alors, il va être question du premier film de Paul Dano dont le titre est Wildlife, Wild, Wild. C'est marabout ça, non ?
Oui, Antoine, c'est marabout. Et donc ?
Non, mais rien, signaler ça comme ça, je trouvais ça marrant. Quoi qu'il en soit, marabout ou pas, ces deux invités pour le prix d'un que nous vous proposons aujourd'hui, Paul Dano et sa renversante interprète Carrie Mulligan pour parler d'Oscar Wildlife.
Antoine, c'est très très confus. Hein.
Allez, pop, c'est parti.
France Inter. Pop. Antoine Decaune.
À mes côtés, vous l'avez entendu, celle qui me ramène à la raison dès que je fais des digressions. Charline Roux, bonjour Charline.
Bonjour Antoine.
Merci, c'est vrai que j'ai un petit penchant naturel, certains diront un défaut, à parler d'autre chose, à m'éloigner.
Antoine, focus.
Au menu de Pop, un casting chic avec l'actrice Carrie Mulligan et le comédien et aujourd'hui réalisateur Paul Dano venu nous présenter son premier film Wildlife. Mais avant de nous entretenir avec le réalisateur américain, accueillons comme il se doit celle qui a donné la réplique à Ryan Gosling dans Drive. Attendez, je prends un cure-dent. Voilà, maintenant je peux poser ma question. Et cette question c'est... Pour vous, Cara Mulligan, c'est quoi la pop culture, hein?
My definition of
la
pop
définition
culture.
De la culture pop.
Do you ask that to everyone?
Vous demandez ça à tout le monde?
What do they say?
Et qu'est-ce qu'ils disent?
Des choses très 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 différentes. En fait, ça, si vous voulez, ça peut être aussi bien un film, une période, une musique, de la mode, une idéologie. Ça peut être ça.
That's it.
Et ben voilà.
I don't know. I have no idea what to say to that.
Je sais pas quoi répondre.
It only evokes images of like Carnaby Street to me, but
c'est
that's
Carnaby
not right.
Street pour moi. Ça évoque ce que c'est que
yeah,
Carnaby
I'll
Street à Londres.
That.
Voilà, c'est ça que je pourrais
The
répondre.
60s.
Les années 60.
Merci, Carrie Mulligan. Carrie Mulligan et Paul Dano sont dans Pop, et non pas l'inverse. Ils sont avec nous jusqu'à 17h, mais pour l'heure, on écoute Aurel San avec La fête est finie.
Un jour tu trouves la vodka Red Bull dégueulasse. La musique est trop forte, tu connais aucun son qui passe. Un jour tu réalises enfin un tes fantasmes. Mais tu ressens comme un vide parce qu'en fait t'as trouvé ça naze. Un jour tu t'écrases et t'atterris dans la vraie vie. T'es plus vieux que ton père sur des photos de quand t'étais petit. Un jour tu te sens perdu dans les fêtes de famille. Leurs portables sont pleins de photos de gosses, toi t'as que des photos de gamines. Quand y'a plus d'alcool sur le sol que dans les verres, c'est qu'il est l'heure de rentrer. Quand y'a plus de musique et t'es tout seul sur la piste, il faut que t'arrêtes de danser. Là. Qui c'est ce gros porc dans la glace? C'est pourquoi tu t'essouffles alors que t'as monté trois marches. Un jour ton pote traîne qu'avec ses collègues de ta have. Pourtant c'est le genre de connard que vous détestiez en classe. Un jour tu te rends compte que personne n'écoute tes histoires. T'étais un jeune cool, maintenant t'es plus qu'un oncle bizarre. Un jour t'as beaucoup plus de remords que désir. Et t'as passé trois mois de stress pour 30 minutes de plaisir. Quand y'a plus d'alcool sur le sol que dans les verres, c'est qu'il est l'heure de rentrer. Quand y'a plus de musique et t'es tout seul sur la piste, il faut que t'arrêtes de danser. Là. T'es censé changer des choses. Depuis quand les choses nous ont changé? On était censé rien faire comme les autres. Est-ce que tout le monde mentait? On était censé changer des choses. Depuis quand les choses nous ont changé? On était censé rien faire comme les autres. Est-ce que tout le monde mentait?
La fête est finie, c'est un morceau signé Orelsan. Vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Et nous sommes aujourd'hui en compagnie d'un réalisateur et d'une actrice. Voilà, je m'arrête là. Dites-moi en plus avec le pop portrait, Charline, s'il vous plaît. Alors oui, un pop portrait, bon, c'est un portrait bien sûr, mais...
À base de pop, 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 pop.
Et c'est signé Charline...
Pole position. Ils ont respectivement 33 et 34 ans et cumulent déjà un nombre fou de grands films. Carey Mulligan était fantastique dans Une éducation, dans Drive, dans Shame, dans Gatsby, dans Inside Llewyn Davis. Les Michael Mann, Jim Sheridan, Frère Cohen, Oliver Stone et Nicolas Winding Refn ne s'y sont pas trompés en la faisant tourner. Paul Dano était brillant dans Long Island Expressway, dans Little Miss Sunshine, dans There Will Be Blood, dans Looper, dans Prisoners, dans 12 Years a Slave, dans Love and Mercy et dans Okja. Alors forcément, quand ces deux-là unissent leurs forces, la première devant la caméra, le second derrière, et pour la première fois, le film s'appelle Wildlife et on est donc ravis d'en parler avec Carey Mulligan et Paul Dano dans Pop Pop Pop.
Merci Charline. Bien, intéressons-nous à la pop list de Carey Mulligan. Nous lui avons demandé de choisir un livre, un film, une musique et une série culte. Hop. Est-ce qu'il y a un livre qui figure sur votre table de chevet ?
Just Mercy.
Just Mercy, de Bryan Stevenson.
Est-ce que vous pouvez nous en parler?
So Bryan Stevenson is a lawyer.
Bryan Stevenson, c'est un avocat qui défend des condamnés à mort en Amérique.
And he believes that you aren't defined by the worst thing you do in life. So if you are a burglar,
et il dit
you're
que si jamais vous avez volé, vous n'êtes pas qu'un voleur. Si jamais vous êtes un violeur, vous n'êtes pas qu'un violeur. Et si vous avez commis un assassinat, vous n'êtes pas que un assassin. Et que tout le monde a besoin et mérite la grâce et le pardon. Et donc il aide les gens à être représentés. Et son bouquin parle de son avocat, de son travail, de son plaidoyer contre la peine de mort. Et toujours, il essaie de voir le meilleur chez les gens.
Le film qui vous a marqué, Carey Mulligan, c'est un film de 1989, Indiana Jones et la dernière croisade. C'est le troisième volet de la saga de l'aventurier, le tout signé Spielberg, et interprété bien sûr par Harrison Ford, épaulé dans cet épisode par papa Sean Connery. Pourquoi ce choix ?
Je crois que c'est un des premiers films dont je me rappelle
et
qui m'a enthousiasmé sur tout ce que le cinéma pouvait produire, l'aventure du cinéma. Et c'est ça aussi pour moi le cinéma. C'est bizarre, le genre de films que je fais moi ne sont pas du tout le genre de films que moi j'aime aller voir. Moi j'aime bien les films qui sont de grands spectacles, des choses qui vous évadent, dans lesquelles vous pouvez vous évader. Alors que moi je fais des films plutôt intellectuels, et dans lesquels on voit un miroir de nos propres vies. Mais moi j'aime les films qui explosent, qui sont grands, qui sont larges et qui sont des films d'aventure.
Moi je vous verrais bien dans un film comme Hunger Games.
C'est vrai?
I don't know, I've never really
je sais pas, j'ai jamais vraiment trouvé des rôles dans ce genre de production-là que j'aime pourtant. Mais j'adore les voir, plus que tout. Mais ça ne s'est pas présenté. Mais si j'avais, il y avait un rôle, j'adorerais faire un film comme ça.
Qu'est-ce que vous attendez d'un rôle d'ailleurs ?
Ça a changé. Quand on commence, on prend tout ce qui arrive. Mais j'ai eu de la chance. Et je pouvais attendre que les bons rôles arrivent. Mais je crois que c'est l'écriture vraiment pour moi qui importe et qui est de plus en plus importante. Que la qualité est de mieux en meilleure mesure, je pense. J'aime travailler avec un réalisateur et faire partie de sa vision du monde. Bon, j'ai vu Pariah de Dee Reeson, je pensais que c'était vraiment quelqu'un d'épatant et j'ai voulu vraiment travailler avec elle, même s'il n'y avait pas vraiment de rôle pour moi là. Et puis avec Nicholas Winding Refn, j'avais vu vraiment que c'était quelqu'un qui allait vraiment aller très loin. Mais généralement, c'est surtout l'écriture qui m'importe. Et puis la collaboration avec le réalisateur, c'est ça qui Et moi, comme j'ai deux enfants, et donc de les quitter, ça me fait mettre la barre très haute pour accepter.
Pour ce qui est des séries, vous avez choisi une série créée par Dan Fogelman et diffusée depuis 2016 en France sur Canal+. C'est un mélodrame familial sur trois générations qui fait pleurer le monde entier. Ça s'appelle This Is Us.
Quand j'ai commencé à regarder, je faisais cette pièce Girls and Boys à Londres. Et il y avait un monologue qui était vraiment très difficile. Le sujet était très difficile. Et j'avais besoin de quelque chose quand je rentrais chez moi qui soit vraiment. Qui m'aide à faire une catharsis. Parce que dans ma pièce, je ne pleurais pas du tout. Et c'était important qu'elle ne pleure pas d'ailleurs. Et donc, je rentrais chez moi, je regardais This Is Us. Et ça me donnait toute l'émotion et la chaleur dont j'avais besoin, et je pouvais pleurer un bon coup chaque soir. Et c'était bon pour ma santé mentale.
On est d'accord que les gens qui ne pleurent pas devant This Is Us n'ont pas de cœur, sont morts dedans.
Oui, ils sont morts, tout à fait, à l'intérieur, oui. C'est vrai, ils n'ont pas d'âme.
Et enfin, pour la chanson, Carey Mulligan, vous avez choisi Love's I Will Be Done de Martika. C'est l'extrait de son second album, Martika's Kitchen, sorti en 91. Et c'est un single co-écrit et coproduit par Prince. Pourquoi cette chanson-là ?
So this was a song that I used to. So when I first started.
Quand j'ai commencé, moi.
Doing press and stuff, I just found it kind of crippling.
Des interviews.
I hate doing red carpets.
Et je me disais, oh là là, mais j'aime pas du tout faire les grandes cérémonies, les tapis rouges, tout ça. Et pour la sortie de Gatsby, le magnifique, c'était des cérémonies énormes, des grandes premières. Jay-Z était présent. Et j'avais peur à chaque fois. Et donc on a commencé à se passer cette chanson-là dans la voiture. Et ça nous donnait courage. Et puis ça mettait les choses dans leur bonne perspective. Ça me rappelait que ça m'aidait à me rappeler que les choses sont, que toutes ces choses-là sont des choses qui passent. Que la vie, que la vraie vie, ça n'est pas vraiment les tapis rouges. C'est l'amour, c'est vos amis, c'est votre famille. C'est une façon de remettre les choses en perspective pendant tous ces événements publics que je déteste.
France Inter. On peut pas. Antoine Decaune.
On continue à parler de pop, de culture et de pop culture avec Carey Mulligan et Paul Dano, juste après un morceau de Charles Bradley. Et ce morceau, c'est Can't Fight the Feeling. Oh
Charles Bradley, Can't Fight the Feeling, France Inter. Pop, pop, pop. Voilà une des annonces sobres, car j'ai décidé de supprimer de plus en plus de mots pour m'économiser jusqu'à la fin de l'année.
Vous avez bien raison, patron.
Merci. Bien, avant de recevoir dans la deuxième partie de l'émission le réalisateur de Wildlife, Paul Dano, intéressons-nous à son actrice Carey Mulligan. Et avant de papoter avec elle de Wildlife, écoutons un extrait de quoi? Bah, de Wildlife, bien sûr. Avec qui? Bah, avec Carey Mulligan. Écoutez un peu.
How do you feel about your name?
Never thought about it.
We chose it because it was plain. Joe. You could be anyone with that name.
I suppose.
Jeanette. We never liked that. Seemed like a waitress's name.
What would you rather be called?
La-di-da. How would that be?
I like Jeanette.
Et retournons donc avec Jeanette.
France Inter. Pop-pop-pop. Antoine Decaune.
Dans Wildlife, une saison ardente, en français, le premier film de Paul Dano en tant que réalisateur, vous êtes Jeanette Brinson, fraîchement arrivée dans le Montana avec mari et enfant, et rapidement son couple va se dégrader sous le regard impuissant de son ado. Un personnage à la fois prisonnier d'une situation compliquée, c'est une femme délaissée, mais aussi pleine de failles, de défauts et de tempéraments qui accélèrent la déréliction de son couple. Est-ce que c'est la dualité du personnage qui vous a attiré?
Yeah, I think just seeing a woman failing on screen is pretty unusual.
Oui, de voir une femme avec ses échecs à l'écran, c'est assez rare.
And I liked that she didn't.
Et j'ai beaucoup aimé qu'elle n'est pas en contrôle et qu'elle ne sait pas trop ce qui lui arrive.
And that she didn't behave in the way that we expect women to behave.
Et qu'elle se comporte pas de la façon dont en général on attend que les femmes se comportent dans une telle situation.
Comment Paul Dano vous a-t-il parlé d'elle, à moins que ce ne soit sa partenaire et co-scénariste Zoé Kazan, une amie de 10 ans, si je ne m'abuse, qui ne vous a exposé le rôle?
On a parlé des choses auxquelles je m'identifie, moi. Et moi, ce que je voyais d'abord en elle, c'est cette expérience très nostalgique qu'elle traverse. Ce sentiment qu'elle entend une chanson à la radio et ça lui rappelle son adolescence. Et elle se rend compte tout d'un coup de tout le temps qui est passé pour elle. Ça a été un peu la clé pour le personnage et c'est de ça dont on a d'abord parlé. Et puis on a beaucoup parlé aussi de cette crise identité qu'elle traverse. Quand elle n'est pas mère, quand elle n'est pas épouse, elle ne sait finalement plus tellement qui elle est. Si jamais elle a une identité, elle a passé tellement de temps et tellement d'années à faire semblant. Derrière ce vernis des années 50-60. Et donc elle se bat, elle doit essayer de trouver qui elle va redevenir.
Vous avez qualifié ce rôle de terrifiant. Qu'est-ce qu'il y avait d'effrayant à incarner Jeanette Brinson? Est-ce qu'il y avait en partie le fait de jouer aussi devant des amis?
Definitely.
Ah oui, tout à fait.
Yeah. And not just performing in front of friends.
Pas seulement devant des amis.
But performing in front of incredible actors
mais
in
aussi
their own rights.
So, des acteurs extraordinaires eux-mêmes.
Had an added pressure.
Et donc d'avoir Paul là, c'était quand même une pression supplémentaire. Mais bon, j'y suis arrivé.
And also that they had written
et puis,
the script,
ils avaient écrit ce scénario ensemble.
They had 4 years worth of really thinking
et donc
about
pendant 4 ans, ils avaient réfléchi à tous ces personnages. Et de mettre un corps là-dessus était assez intimidant. Et puis c'est cette perte de contrôle qui m'inquiétait un peu à jouer. Parce que jouer quelqu'un qui est responsable et qui perd ses pédales, c'est ça vraiment l'histoire et c'était ça qui m'inquiétait.
Le film est adapté d'un roman de Richard Ford. Est-ce que vous l'avez lu avant de commencer le tournage?
Oui, je l'avais lu, même avant de lire le scénario.
Et quels souvenirs vous en gardez?
Cette idée d'image qu'elle doit projeter devant les gens, c'est quelque chose de très fort dans le roman. Il y avait un passage où le fils, Joe, parle de la façon dont le monde voit ses parents. Le monde les voit comme un couple parfait. Ils sont beaux, ils ont une vie merveilleuse. Et puis lui commence à voir les fissures. Et c'est ça que le film raconte, finalement. C'est la façon qu'on a de découvrir qu'ils ont une histoire avant vous-même, des choses que vous ne connaissez pas. Et ça qui m'a frappé dans le roman. L'image à laquelle nous essayons toujours de ressembler pendant toute notre vie.
Le personnage a quelque chose de très moderne dans le sens que même si elle appartient aux années 60, elle faillit, mais elle donne l'impression de s'en foutre complètement. C'est une erreur avec laquelle elle va devoir vivre, mais ça reste qu'une erreur, pas un acte méritant un châtiment. Comment est-ce qu'on joue cette modernité dans un univers aussi compassé ?
Je crois qu'elle se rend compte de son échec. Et à la fin, elle le dit. C'est pendant le film que quelque part, elle ne voit pas très clair. Mais ce qu'elle fait, à mon sens, est très logique. Et il fallait que je comprenne cette logique pour jouer ce personnage. Petit à petit, j'ai essayé de voir la situation dans laquelle elle est abandonnée. C'est les années 60, elle a été abandonnée, elle n'a pas le moyen de gagner sa vie. Et donc, elle essaie de s'attacher à quelqu'un qui pourra l'aider financièrement. Elle essaie de se réinventer pour en sortir. Mais tout ça n'a pas vraiment complètement de sens. Mais pendant longtemps, elle ne se rend pas compte et qu'elle elle ne va pas s'excuser même pour ce qu'elle a fait, effectivement, par rapport à son ami. Il y a ce moment-là où elle essaie de trouver son chemin dans la vie.
Est-ce que Jeannette est un personnage typiquement 60s ou bien est-ce qu'elle pourrait survivre aujourd'hui?
Je pense qu'elle se débrouillerait quand même mieux aujourd'hui. On a parlé de finalement faire ce film et qu'il se passe en 1916. Et puis il y avait des questions de budget. Mais dans les années 60, il y avait des contraintes portées sur les femmes qui n'existent plus vraiment aujourd'hui. Je pense que c'est une femme moderne. Mais beaucoup de femmes avaient ce sentiment à cette époque-là, avaient l'impression d'être emprisonnées. Elle est capable, elle, d'en sortir dans des circonstances extraordinaires.
Votre performance dans le film est unanimement et à raison saluée par les critiques. J'aimerais revenir sur une de vos grandes scènes en particulier, une scène d'ivresse et de séduction. Comment l'avez-vous abordée ?
C'était la scène qui m'inquiétait le plus. Parce qu'elle change sans cesse, cette scène, elle avance. Et c'est toujours très risqué de jouer l'ivresse. Mais elle traverse cette situation d'une façon très concrète. Elle a décidé que cet homme va s'occuper d'elle et donc de son fils.
Et donc,
elle y va avec les meilleures intentions, même si elle a l'air complètement à côté de la plaque. Elle essaie finalement de s'accorder à cet homme. Mais quelque part, lui ne joue pas complètement le jeu. Et donc elle change de stratégie petit à petit pour essayer de jouer la même musique. Mais elle est nerveuse, elle est épuisée, elle est dépassée. Et donc elle commence à boire. Et c'est l'alcool qui prend le pas. Mais toute sa vie précédente avec son mari lui revient sans tête parce qu'elle voit son fils qui est là présent. Et donc, tout ce moment-là, elle essaie toujours de survivre, de ne pas se cracher. Et c'est un moment plein d'adrénaline. Il faut simplement qu'elle arrive au bout. Je pense qu'elle essaie sincèrement de bien se comporter. Mais ses intentions, c'est de passer un bon repas. Et elle ne pense pas qu'autre chose va se passer, mais elle ne contrôle plus la situation.
Parlez de votre fils. Un mot de votre famille de cinéma, à commencer par votre époux de fiction, Jake Gyllenhaal. D'abord, comment est-ce qu'on prononce ce mot ?
Jake Gyllenhaal.
Jake Gyllenhaal. Ok. Comment avez-vous trouvé la juste tonalité pour votre couple ?
Jake et moi, on est amis depuis une dizaine d'années. On a travaillé ensemble sur un film qui s'appelle Brothers. J'étais pas vraiment moi actrice sur le film, mais on s'est rencontrés là. Et on avait lu d'ailleurs des pièces pour éventuellement travailler ensemble encore. Tous les extérieurs ont été tournés au Montana sans lui, en fait. Et donc pendant plusieurs jours, on a commencé à travailler. Il n'était pas encore sur le plateau. On a parlé par texto interposé de comment notre couple s'était rencontré, de quelle était l'histoire de ce couple. Et puis c'était facile après. C'est un acteur très facile. Il habite complètement son personnage. Et du coup, on rentre facilement. Et Paul a créé aussi un environnement dans lequel le travail était facile.
L'autre duo du film, c'est celui que vous formez avec Ed Oxenbould, votre fils, dans le film. Un enfant avec qui votre personnage est très complice, mais qui fait aussi porter de lourdes responsabilités. Comment est-ce que vous avez travaillé ce rapport mère-fils ?
On a fait un peu de répétition, quelques heures en fait, c'est tout. Mais là encore, on répétait les scènes la veille, dans le décor, et c'est devenu assez naturellement. C'était naturel de travailler avec lui, c'est quelqu'un de très mature. C'est un professionnel, vraiment. T'as pas l'impression de travailler avec un gamin, du tout. Il est très capable. Et on n'avait jamais l'impression qu'avec lui, il fallait qu'on surjoue les choses ou qu'on s'adapte. Il a un accent américain extrêmement naturel, qui lui est venu tout complètement naturellement, parce qu'il vient d'Australie. Et tout ça est devenu très logique. Et puis, il a quelque chose de très... Il a une grande admiration pour Jake, comme la plupart des acteurs de 14 ans qui admirent Jake. C'était donc aussi assez naturel. Et c'est un petit peu dans le film, je crois, ça aussi. Et ça fonctionne très bien.
Vous avez dû beaucoup travailler votre accent vous-même ?
Yes, a lot.
Ah, beaucoup. J'ai travaillé avec depuis Gatsby, je travaille avec le même coach, heureusement. Il s'appelle Tim Monick, il est génial. Il a une collection de voix de toute la du monde entier, des enregistrements de voix. Et donc, quand on décide qui est le personnage, il t'envoie 8-10 enregistrements de personnes qui viennent de la même ville. Et donc, c'est ça qu'on imite.
Ça vous dirait d'essayer de travailler avec un accent français ?
Bien sûr, mais
il faut que Tim Monick soit là pour m'aider. J'y arrive pas comme ça de moi-même, j'ai besoin de travailler avec lui pour
y arriver. Si vous deviez le faire spontanément, ça donnerait quoi ?
Oh non, je vais pas vous faire ça, certainement pas.
Donne-moi
6 mois et je reviendrai.
Vous avez présenté le film dans de nombreux festivals et les avis sur Janet, votre personnage, ne sont pas toujours très tendres. On a entendu mauvaise mère, mauvaise épouse, ce qui est extrêmement discutable à mon avis. Est-ce que vous attendiez à ce qu'elle suscite de telles réactions ?
J'y pense pas vraiment quand, du tout, même quand je joue un personnage, la façon dont les gens vont la voir. Mais j'étais surprise vraiment à quel point les gens parlaient de ça. C'est intéressant que personne ne dise qu'elle est abandonnée par son mari et qu'il abandonne également leur fils de 14 ans. Mais tout le monde aime Jake, voilà. Et donc, le personnage féminin qui réagit contre ça, eh bien, ça fait un peu un problème, en général, au public. Ouais.
Qu'est-ce que ça change pour l'actrice que vous êtes de travailler en étant dirigée par un acteur ?
Il a une compréhension, je crois, de tous les pièges dans lesquels on peut tomber. Je me rappelle de la scène où... Il y a toute une dispute autour du feu. Et puis on a changé nos marques le jour même. Ça ne fonctionnait pas. Et il a identifié qu'on était coincé. Et donc on a fait cet exercice un peu bizarre qui nous a demandé. Et comme il était acteur lui-même, il a été comédien, il sait très bien comment sortir de ces moments-là. Et il nous a aidés à en sortir. Il a ce côté instinctif. Aussi, c'est un acteur très particulier, avec une vérité, avec une sincérité. Il a quelque chose de ça en lui. Il a beaucoup d'intégrité en tant que comédien. Et c'est ça qu'il cherche dans les acteurs qu'il engage.
Vous sentez, vous, l'âme d'une réalisatrice ?
Non, it's so hard.
Ah non, c'est trop difficile.
No, I can only do one thing.
Non, il n'y a qu'une chose que je peux faire, c'est jouer la comédie.
It's just such an extraordinarily hard job,
and I think there's so much to do with it that is not creative. Et puis il y a tellement de choses que l'on doit faire qui n'a rien à voir avec la créativité, la logistique, le budget, toute l'économie du cinéma et tout ce côté-là. Ça, c'est vraiment pour moi, ça n'a vraiment aucun intérêt. Et puis c'est très stressant.
Paul
a été incroyable. Il a tout pris en charge. Et jamais, il ne donnait l'impression d'être tendu. Il faisait un film vraiment à très petit budget. Mais il n'a jamais montré de stress. Pour nous, il faisait un film qui était sur les acteurs et sur les performances d'acteurs.
Merci Karim Hulian.
Merci.
Bien, pop break dans ce pop pour lancer les news. Pop goes live.
on apprend une nouvelle fulgurance du président Orange, et ce grâce au comédien Christian Bale, actuellement en promo pour le film Vice. Et sur un tapis rouge, il a livré cette anecdote présidentielle. Alors qu'il tournait une scène de Batman dans la Trump Tower, il a rencontré le monsieur.
I think he thought I was Bruce Wayne because I was dressed as Bruce Wayne. So he talked to me like I was Bruce Wayne and I just went along with it. Really. Like that. It was quite entertaining. I had no idea at the time that he would think about running for president. You know?
Now he's president.
I know, right.
Oui, l'actuel président américain a cru que Christian Bale était vraiment Bruce Wayne, donc Batman. Tout ceci est très, très rassurant.
Vous manquez de répartie, vous rêvez de parler comme Iron Man, Spider-Man, Wonder Woman ou même les quatre fantastiques en même temps? Pas de problème. Voici le guide qu'il vous faut aux éditions Duno. Parlez comme un super-héros. Ainsi, quand on vous demande de décliner votre identité, vous pourrez répondre « Je suis Wolverine, le meilleur dans ma partie, mais ce que je fais n'est pas joli ». Quand on manifeste le plaisir de vous voir à un dîner, vous pourrez rétorquer tel Hellboy « Ça te fait plaisir de me voir, gueule de vomi ?» ou encore à la question « Ça va ?» Vous pourrez désormais tenter un « Quelque chose de sauvage s'étend sur la ville, mon pouce en balle comme un tam-tam, c'est la nuit mon élément, comme Daredevil. Parler comme un super-héros de Philippe Lombard, de quoi devenir invincible.
Katy Perry est désormais un perso de jeu vidéo. Vous pouvez jouer avec elle dans Final Fantasy Brave Exvius. Et pour fêter tout ça, il y a bien sûr une chanson pour accompagner son arrivée. Et Katy Perry, un personnage jouable dans Final Fantasy, c'est pour une durée limitée.
France Inter. Pop-pop. Antoine Decaune.
Gollum.
Non, un dragon.
Ah ouais, mais pourquoi?
Comme ça, j'ai envie de cracher le feu aujourd'hui. Merci, Charline. On va continuer à parler de Wake Life, le film de Paul Dano. Bah, avec Paul Dano, hein, justement, juste après un morceau de Beck, Loser.
Yo, bring it on down.
Beck, Loser, c'était en 93 sur l'album Mellow Gold. Vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Aujourd'hui, vous l'avez compris, on parle de Wildlife, une saison ardente en français. Et après en avoir parlé avec Carey Mulligan, son actrice, on en parle avec le réalisateur Paul Dano.
France Inter, Pop Pop Pop, Antoine de Caunes.
Bonjour Paul Dano.
Bonjour.
Bonjour. Nous connaissons votre travail de comédien chez Paul Thomas Anderson, Bong Joon-ho, chez Sorrentino, Steve McQueen ou encore Denis Villeneuve, pour ne citer qu'eux. Mais c'est aujourd'hui le jeune réalisateur de 34 ans que nous recevons. Est-ce que vous avez toujours su que vous passeriez derrière la caméra ?
I have wanted to make films for a long time.
Ça fait longtemps que je veux faire du cinéma.
Acting did bring me to film.
C'est en étant comédien que je suis rentré dans le cinéma. Je faisais du théâtre auparavant. Avant de jouer dans des films, je faisais donc du théâtre. Et puis j'ai découvert le cinéma indépendant. Et je me suis rendu compte qu'il y avait bien des façons d'utiliser cet art. Et puis, du coup, j'ai découvert le cinéma étranger. Et quand j'ai vu un certain nombre de films du monde entier, je me suis dit, oui, ça y est, j'ai envie de faire des films.
Avant de vous lancer, est-ce que vous avez pris quelques conseils auprès des illustres réalisateurs qu'on vient de citer ? Et quel est le meilleur conseil qu'on vous ait donné ?
So over the years, I've been very, very lucky to work with so many beautiful filmmakers.
Et c'est vrai, j'ai eu cette chance de travailler avec tous ces réalisateurs.
I've learned
mais j'ai appris beaucoup.
I would say the spirit
avec eux sur l'esprit
of what it means to make a film.
Ce que c'est que de faire un film.
Meaning,
c'est ça le plus important.
How you involve the crew.
Comment est-ce que vous impliquez votre
everything
équipe?
Is going towards the moment in front of the
pour
camera,
que tout se dirige, toute l'énergie se dirige vers ce que l'on filme,
details,
l'attention aux détails, l'éthique du travail,
the passion,
la passion,
the sense of leadership through energy,
diriger l'énergie d'une équipe, la porter quelque part.
And there are so many things I've seen,
et de tout ce que j'ai vu,
go, oh, so
souvent je me suis dit,
oh,
je suis content de me rendre compte que j'avais l'impression que je pouvais le faire.
Wildlife, une saison ardente en français, se situe dans les années 60, raconte l'histoire de Joe, un adolescent de 14 ans, qui assiste impuissant à la lente dégradation des rapports entre son père et sa mère. Bande annonce.
Mom, is that okay?
Of course he is. His pride got hurt. That happens sometimes.
You don't have to worry about anything, Joe.
There comes a time when a man needs something more to hang his hat on.
Got this hum inside my head. I need to do something about it. You understand?
Le film est une libre adaptation du roman de Richard Ford, Une saison ardente. Qu'est-ce qui vous a touché, happé, dans ce roman, au point d'en faire votre premier film ?
J'ai
eu une réaction personnelle énorme. Ça m'a rappelé moi-même, mes parents, et même mes grands-parents. C'était un archétype et à la fois c'était complètement intime.
Et c'était comme... A good place to start,
j'ai eu le sentiment que c'était un bon point de départ pour faire un film sur quelque chose qui m'importait, sur la chose sans doute qui m'importe le plus dans le monde, c'est-à-dire la famille.
Vous avez imaginé ce film pendant très très longtemps et vous dites avoir eu la vision de ce que serait la dernière scène du film, que nous ne raconterons pas ici mais qui est bouleversante. Et c'est à ce moment-là que vous avez contacté Richard Ford. Qu'est-ce qu'il vous a dit à ce moment-là ?
Yes, exactly.
Oui,
so,
tout
not
à fait.
Everything in a book might make a film, and I think
tout ce qui est dans le roman ne passe pas forcément à l'écran. Et donc, on doit toujours se poser la question pourquoi est-ce qu'on le fait et comment on le fait. Et donc, j'ai rêvé à cette scène pour à peu près un an et de la façon dont j'allais finir le film, qui est différente de celle du roman. Et ça me disait, ça m'expliquait pourquoi moi, j'étais la bonne personne pour faire ce film. Et ça me disait qui j'étais dans ce film. Et donc, j'ai appelé Richard Ford. Et la première chose qu'il m'a dit, c'est que mon roman, c'est mon roman, ton film, c'est ton film. Il faut que tu organises ça et que tu te mettes au point avec ça. Il m'a donné vraiment toute liberté. Et c'était vraiment la meilleure chose que je pouvais entendre. J'ai eu énormément de chance. Qu'il me donne la clé de son propre bébé.
Le choix du sujet d'un premier film est toujours très révélateur du caractère, de la personnalité d'un réalisateur. Vous venez de dire que vous aviez envie de parler de famille, mais vous aviez donc aussi envie de commencer par une histoire intime plutôt que par Mission Impossible, par exemple.
Well, I suppose, but it's just the first thing that
j'imagine, mais c'est surtout
you know, took root in me.
Le so premier, it, la première idée qui a vraiment a fonctionné nice pour moi et qui a grandi en moi.
Something like this is it's not a choice.
C'est pas un choix, et c'est ça qui est bien. Vous voyez,
corny,
ça a l'air un peu bête ce que je vous dis, mais c'est quelque chose qui vous attrape.
You can't stop thinking
et
about
it becomes on est envahi, on peut, ça devient une obsession, on ne peut
so
pas penser à autre chose. C'est pas un choix conscient. Simplement, vous vous dites, il faut que je le fasse, il faut que je me plonge là-dedans.
Et après cette exploration, qu'est-ce que vous avez trouvé? Qu'est-ce que vous avez découvert?
Well, first of all, I learned so much.
Avant tout, j'ai appris énormément de choses.
And I can't wait to do it again.
Et je suis impatient de recommencer pour que cette expérience, je la mette en œuvre.
De tous les acteurs, passés réalisateurs, y en a-t-il un pour qui vous éprouviez une admiration particulière? Vous êtes plutôt John Cassavetes, Sylvester Stallone ou Clint Eastwood?
Well, I love John Cassavetes.
J'adore John Cassavetes.
Wildlife est un film sur la famille pour lequel vous avez travaillé en famille puisque votre co-scénariste et votre compagne Zoé Kazan. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'étrange, voire de perturbant à raconter ensemble l'histoire d'un couple qui se dérègle jusqu'au non-retour?
So, I actually don't think we thought about that because
je crois pas qu'on y ait pensé comme ça, parce qu'on entre dans le film par le point de vue de Joe, dès le début. Et c'est plutôt, d'abord, une question d'adolescence et de grandir et de quelles sont nos perceptions quand on a cet âge-là.
And Zoe, and I,
Zoe et moi,
we like each other.
On s'apprécie.
We get along.
On s'entend bien.
And we did not bring ourselves to that marriage. It was really.
On n'est pas revenu à notre mariage, si vous voulez.
Through the kid, and then I do think, of course.
On s'est d'abord intéressé à ce personnage du garçon.
Writing both Jerry and Jeanette.
Après, c'était important de parler de Jerry et de Jeanette aussi.
Mais it's funny. We've been asked that and never crossed our mind while writing.
On nous le demande souvent et en fait, on n'y avait jamais pensé.
Dans le rôle d'une mère abandonnée par son homme parti éteindre des incendies et qui se retrouve seule avec son enfant, vous avez choisi Carey Mulligan, qui fait des merveilles dans le registre et qui ne tarit pas d'éloges sur son réalisateur d'ailleurs. Comment est-ce que vous lui avez décrit le personnage de Janet?
Well, I didn't, you know. So Carey,
mais je ne l'ai pas décrit.
I've known for a long time.
Carey, je la connais depuis longtemps.
Zoe and her did a play together.
Zoe
about a
et elle ont joué dans une pièce ensemble il y a une dizaine d'années.
And with a film like this,
et
where the characters
pour un film comme
are
ça,
so
avec des personnages
challenging and
qui sont tous quand même complexes.
Again, you're making it in a homegrown way, so to speak.
Que vous essayez de développer dans une atmosphère familiale. Il vous faut des gens qui sont vraiment impliqués. Et donc, c'était normal de demander à une amie. Et donc, c'était vraiment pas d'ailleurs un service que je lui rendais, parce que c'était un rôle compliqué. Je lui ai envoyé le scénario. Je lui ai dit, ben voilà, je vais réaliser ça, je vais le réaliser. Est-ce que tu serais d'accord pour jouer ce rôle? Est-ce que tu veux bien le lire? Elle m'a rappelé 12 heures après. Et elle était complètement dedans.
So of course, then we talked about it.
Bien sûr, on en a parlé.
A lot.
Beaucoup.
But you want their impression first.
Mais on a envie d'avoir des acteurs d'abord leur première impression, leur réaction au scénario, aux mots.
And have that be why.
Et que ça devienne la raison d'être pour le film.
Tout dans le film est vu à travers les yeux du jeune Joe, qui est joué par Ed Oxenbould. Comment avez-vous adapté votre vision à celle du personnage? Et inversement, en d'autres termes, comment voit-on à travers les yeux d'un ado?
When we were writing, we experimented
à l'écriture, on a essayé d'avoir plus des scènes de Jerry ou Jeanette sans Joe. Ça nous aidait à mieux les comprendre, mais au bout d'un compte, on a compris que la force
The reveal of information
était dans
and only partial access to them.
La façon dont Joe n'a pas accès à toutes les
as
informations parce qu'il est jeune,
so
parce que c'est un gamin.
To be put in the place where we don't understand every
et donc, avec lui,
thing,
on se met dans une position où on ne comprend pas
part
tout.
The shock of what
et ça
we
fait
do
partie du choc et de
what's hidden and
et de ce qui est, devant ce qui est caché et qui tout d'un coup apparaît,
que
tout d'un coup lui apparaît. C'est ça qui nous semblait être ce qu'il y avait de plus sincère et fort pour révéler, pour montrer comment, qui est cette famille.
We could not have done it without
on n'aurait pas pu faire
these three and four with sans, camp, incredible actors,
sans ces trois comédiens
film and the filmmaking is quite reliant
parce que
on them.
La mise en scène dépend complètement
face,
de leur visage,
their thought,
leurs pensées.
Their inner life is the
leur vie intérieure, c'est vraiment le mouvement du film. La caméra ne bouge pas beaucoup, c'est eux. C'est leur expérience, leur vie qui fait le film.
So this film would not have worked at all.
Sinon, le film n'aurait pas du tout fonctionné sans ces trois comédiens.
Vous avez eu la tentation de jouer dans le film?
Ah non, jamais.
Pourquoi?
D'abord, j'étais tellement enthousiaste à l'idée de réaliser et franchement de travailler avec la caméra, les couleurs, les textures. Ça me suffisait. J'avais pas envie de me concentrer et d'essayer de travailler, d'être autre chose. Je voulais travailler avec les comédiens, être disponible pour eux. Et c'est ça qui était bien.
Pour ce qui est de la mise en scène, on peut parler de beauté, de sobriété. Vous dites, vous êtes interdit tout mouvement superflu ou non nécessaire à la narration. C'est la tentation d'un jeune réalisateur ou bien c'est simplement votre goût à vous en tant que spectateur.
Well, both. I mean, one,
les deux.
When I saw films like
quand j'ai vu des films comme Bresson,
Ozu,
suddenly
I didn't even know you could make films
je me rendais même pas compte qu'on pouvait faire des films comme ça.
Really
et c'est so là que je me suis vraiment enthousiasmé pour le cinéma, que j'ai trouvé fort, essentiel, poétique. Et ça se retrouve dans l'écriture de Richard Ford, parce que sa prose est très claire, simple.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Merci Paul Dano, Wildlife, une saison ardente, ça sort mercredi prochain. On papote, mais il est l'heure pour moi de descendre à la cave chercher le dernier vinyle de l'émission. Allez, j'y vais. Ah bah voilà, ça y est, il commence à faire froid, la température frôle le zéro et c'est grippé. Bon, je ferai ça demain. En attendant, mettez-moi un petit B-52, tiens, Love Shack par exemple.
Looking for the love.
Love Shack, B-52s, c'était sur l'album Cosmic Thing et aujourd'hui dans vos oreilles, grâce à Pop-Pop-Pop sur France Inter. Voilà, l'aventure s'arrête ici, comme dirait Denis Brognard. Merci à l'équipe de Pop-Pop-Pop, Kisplein Fontanus à la réalisation, à la technique Ludovic Asselot, Aurélien Esvan, notre rédacteur en chef, Claire Safico, la Hugo Combe et Simon Restal, nos attachés de production, à la programmation musicale Djoubaka et Colin Cruel, notre stagiaire. Demain dans Pop-Pop-Pop, lui.
Un jour j'ai rencontré Hera et depuis je vous emmerde.
Bah nous aussi, le rappeur Giorgio. Mais avant demain, si vous avez aimé l'émission, retrouvez-la sur France Inter. Et si vous êtes un Jones 3.0 ou un Yov à la pointe, suivez-nous, plutôt comme dit Mario à la fin de ses tutos plomberies sur YouTube.
It's me, Mario.
Abonnez-vous à notre podcast.